VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, édition du vendredi 28 janvier 2022. Jean-Roger Pion à ce micro. Bonsoir à tous. À la une de nos informations, le Burkina Faso est suspendu de la CEDEAO qui dépêche demain une première mission à Ouagadougou. Les dirigeants ouest-africains accusent aussi les militaires maliens de vouloir se maintenir au pouvoir. L'ONU tire la sonnette d'alarme avec près de 40% de la population de la région éthiopienne du Tigré en pénurie extrême de nourriture. Crise ukrainienne, la Russie assure ne pas vouloir la guerre. Le chef de la diplomatie russe se dit prêt à rencontrer à nouveau son homologue américain. Cannes 2021 au Cameroun, Emmanuel Jelentap nous rejoint dans un instant en ouverture dans le journal des sports. Week-end de compétition déterminant pour les 8 équipes encore en lice à la Coupe d'Afrique des Nations de football qui se dispute au Cameroun. En jeu, les places qualificatives pour les demi-finales. Le journal de la CAN à Yaoundé avec Emmanuel Jelentap.
Les Lions indomptables du Cameroun ouvrent le bal des matchs des quarts de finale ce samedi. Après 4 matchs disputés au stade d'Olembi à Yaoundé et soldés par 3 victoires et un match nul contre le Cap-Vert, le pays hôte va négocier une place pour les demi-finales, cette fois au stade de Japoma à Douala. En face, la Gambie qui participe à sa première Coupe d'Afrique des Nations. Le Cameroun refuse de se mettre la pression. Pour preuve, une ambiance bon enfant règne toujours au sein des Lions indomptables et le chef d'orchestre de cette atmosphère de danse, de chant, relayé sur les réseaux sociaux avant et après les matchs est le latéral gauche camerounais Ambroise Oyongo Bitolo que nous écoutons.
Pour moi, c'est important que avant les matchs, qu'on puisse avoir des ondes positives pour pouvoir gagner des victoires. Et je pense que avec ça, ça nous permet d'avoir une certaine sérénité, une harmonie, une cohésion avant les matchs et même après. Et si le groupe vit bien, je pense que on peut gagner toutes les équipes.
La Gambie va rencontrer le Cameroun au complet, du moins sur la base des résultats négatifs de tests de Covid-19 effectués hier sur les joueurs et le staff technique, a annoncé la Fédération gambienne de football. Samedi, en soirée, au stade de Rumdéadja à Garoua, le Burkina Faso va croiser le fer avec la Tunisie. C'est la troisième fois que le pays des hommes intègre la Tunisie se rencontre en Coupe d'Afrique des Nations. Kamou Malo parle de l'état d'esprit de ses poulains et des points à améliorer durant le match de demain.
Et les statistiques appartiennent au passé, nos ambitions sont claires et désormais nous sommes en tout cas pas obligés, mais je dirais que c'est un devoir pour nous que de décider d'aller jusqu'au bout de cette compétition, notamment aller en finale. Donc je pense que ça commence déjà par le match de demain où nous allons jouer clairement nos chances pour gagner. Alors, c'est les équipes déterminées, c'est pas sur le papier, c'est sur le terrain qu'on saura quelle est l'équipe vraiment la plus déterminée. Alors, je pense que j'ai un groupe capable de jouer n'importe quelle équipe à cette carte. C'est le match que nous avons livré, nous avons marqué à chacun nos matchs, mais nous n'avons pas été tueurs, effectivement, devant le but au moment où il faut marquer pour effectivement prendre l'ascendant sur l'adversaire. Nous n'avons pas su le faire. Ça aussi, c'est dû à la jeunesse de notre effectif. Et ça, il faut le dire, et parfois, ces matchs-là se jouent avec la peur au ventre. Depuis, nous sommes en train d'essayer de corriger cet aspect. Je pense que c'est au mental que nous allons réussir à corriger cette situation.
Kamou Malo, l'entraîneur du Burkina Faso, au micro de Kader Traoré. Pour passer en demi-finale, le Burkina Faso doit aussi savoir bien défendre son avance, un atout qui a manqué aux étalons lors des matchs précédents. Adama Guira, milieu de terrain des étalons, en est conscient et l'a confié à Kader Traoré à Garoua.
Elle est difficile pas seulement pour nous, pour toutes les autres équipes. Et c'est vrai que nous aurions aimé, bien sûr, garder nos cages inviolées. Mais bon, c'est la compétition, c'est comme ça, nous en sommes conscients. Et déjà, si nous arrivons à marquer, cela prouve que nous avons aussi des atouts offensifs qui ne sont pas négligés. Donc, nous travaillerons davantage à rester plus concentrés et à ne pas encaisser les buts. Que si nous sommes parmi les 8 meilleures équipes de cette camp actuellement, cela n'est pas rien, mais nous avons encore faim. cela prouve aussi que le football burkinabé il évolue d'année en année. Et nous sommes ici pour ne pas faire de la figuration. C'est vrai que là, on reste modeste, on prend match par match. Ce qui est dans nos têtes actuellement, c'est le match de demain et essayer de tout donner pour passer ce tour.
À noter que c'est le 11e quart de finale que les Aigles de Carthage vont disputer depuis 1992. Mais cette phase de la compétition n'a pas très souvent porté bonheur aux Tunisiens, éliminés 5 fois sur leurs 6 derniers matchs en quart de finale de la CAN. Dimanche, au stade Omnisports de Yaoundé, 2 matchs sont au programme. D'abord à 15h temps universel, le choc Égypte-Maroc, derby d'Afrique du Nord, suivi de Sénégal-Guinée équatoriale. C'est la fin du journal de la CAN de ce soir. Kader Traoré, Emmanuel Juntap, VOA Afrique.
À présent, la suite du journal, la CEDEAO a suspendu le Burkina Faso de ses instances à l'issue d'un sommet virtuel ce vendredi. C'est suite au coup d'État qui a renversé Roch Marc Christian Kabore. Pour l'instant, l'organisation régionale n'a pas adopté d'autres sanctions. Le point avec Nani Talani.
Le sommet virtuel, qui a duré environ 3 heures, a en outre décidé de l'envoi demain, samedi, à Ouagadougou, d'une mission des chefs d'état-major des armées des pays membres, qui sera suivie lundi d'une mission ministérielle. La CEDEAO a aussi demandé la libération du président Roch Marc Christian Kabore, placé en résidence surveillée. L'organisation tiendra un nouveau sommet le 3 février à Accra, au Ghana. Dans sa première allocution, depuis sa prise de pouvoir lundi, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a déclaré hier soir que son pays a plus que jamais besoin de ses partenaires et que sa priorité sera la lutte contre le terrorisme. Disant comprendre les doutes légitimes suscités par le coup d'État, il a assuré que le Burkina va continuer à respecter les engagements internationaux, notamment en ce qui concerne le respect des droits de l'homme, en précisant que l'indépendance de la justice serait aussi assurée. Le lieutenant-colonel Damiba s'est en outre engagé au retour à une vie constitutionnelle normale lorsque les conditions seront réunies, sont données de calendrier.
La CEDEAO a aussi accusé la junte militaire au Mali de vouloir se maintenir au pouvoir pendant des années. L'organisation régionale conditionne la levée des sanctions à la tenue d'élections au Mali. Jacques Aristide.
Les militaires maliens avaient promis des élections en février prochain pour ramener les civils au pouvoir. Puis, ils ont changé d'avis. Ils estiment qu'il faudra encore plusieurs années pour pouvoir tenir des élections. Dans une lettre publiée aujourd'hui, la CEDEAO affirme que cette posture laisse clairement entrevoir une volonté de se maintenir au pouvoir pendant plus de 5 ans. Les dirigeants ouest-africains disent attendre un calendrier raisonnable et réaliste pour la tenue d'élections. Les sanctions seront levées progressivement sur la base de ce chronogramme et de sa mise en œuvre diligente et satisfaisante, indique la lettre. La CEDEAO a ordonné la fermeture des frontières du Mali avec ses États membres, un embargo sur les échanges commerciaux et les transactions financières, la suspension des aides financières et le gel des avoirs du Mali à la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Une batterie de sanctions qui vont peser sur l'économie déjà fragile du Mali, pays meurtri par de multiples attaques djihadistes.
Le ministre malien des Affaires étrangères Abdoulaye Diop a déclaré aujourd'hui que son pays en crise avec la France n'exclut rien dans ses relations avec Paris, tout en ajoutant qu'une demande de départ des forces françaises n'est pas pour le moment sur la table. Le Mali est prêt, le cas échéant, à dénoncer l'accord de défense conclu avec la France, dont il a demandé récemment la révision à Paris parce que certaines dispositions sont contraires à la Constitution et à la souveraineté du Mali, a dit M. Diop. Le chef de la diplomatie française, pour sa part, a insisté aujourd'hui sur la nécessité de poursuivre la lutte anti-djihadiste dans la région. Jean-Yves Le Drian a averti que la France et ses partenaires européens ne peuvent pas rester comme cela au Mali du fait des tensions croissantes avec la junte et vont devoir adapter leur dispositif anti-djihadiste au Sahel. Le président mozambicain a rencontré ce vendredi son homologue tanzanien à Pemba, capitale de la province mozambicaine du Cabo Delgado, frontalière de la Tanzanie et en proie depuis fin 2017 à des violences perpétrées par des djihadistes qui ont fait allégeance au groupe État islamique. Les violences dans cette région ont déjà fait 3 500 morts et obligé 820 000 personnes à fuir leur foyer. L'ONU tire la sonnette d'alarme sur la malnutrition dans la région du Tigré. Selon l'organisation, près de 40% de la population souffre d'une pénurie extrême de nourriture dans cette région ravagée par la guerre. Les précisions d'Abdou Rahman Dia.
Selon une dernière évaluation de la situation alimentaire publiée ce vendredi par le Programme alimentaire mondial, près de 4 600 000 personnes, soit 83% de la population du Tigré, sont en situation d'insécurité alimentaire. L'OPAM ajoute que 2 millions, près de 40% de la population, se trouvent en grave insécurité alimentaire. Ce rapport révèle un peu plus la catastrophe humanitaire dans le nord de l'Éthiopie, où forces pro-gouvernementales et rebelles du Front de libération du peuple du Tigré s'affrontent depuis novembre 2020. L'agence onusienne souligne dans ce document que les familles épuisent tous les moyens pour se nourrir, les trois quarts de la population utilisant des stratégies d'adaptation extrêmes pour survivre. Le PAM alerte aussi sur la faim qui progresse dans les régions voisines de l'Amara et de l'Afar. De son côté, le Bureau de coordination humanitaire de l'ONU a annoncé ce vendredi que les ONG humanitaires manquent cruellement de carburant depuis le 24 janvier et se voient contraintes de délivrer à pied le peu de nourriture et de services humanitaires restants dans la mesure du possible.
Le Rwanda a annoncé aujourd'hui la réouverture le 31 janvier du principal poste frontière avec l'Ouganda, fermé depuis février 2019. Officialisant un dégel des relations entre les deux voisins. Cette annonce intervient moins d'une semaine après la visite du fils du président ougandais Yoweri Museveni, le général Muhoozi Kainerugaba, à Kigali, où lui et le président rwandais Paul Kagame ont affiché leur volonté de restaurer les relations bilatérales qui ont été tendues depuis plusieurs années. La justice militaire congolaise prévoit de rendre demain samedi sa décision dans le procès du meurtre de deux experts de l'ONU en 2017 au Kasaï, dans le centre de la RDC, après plus de 4 ans d'audience. L'accusation a demandé la peine de mort contre 51 des 54 accusés, dont 32 ont comparu. Les autres en fuite sont jugés par contumace. Les experts onusiens Michael Sharp, de nationalité américaine, et Zaïda Catalan, suédoise, avaient disparu le 12 mars 2017, alors qu'ils étaient au Kasaï pour enquêter sur des fosses communes liées au conflit qui avait éclaté dans la région après la mort du chef coutumier Kamuina Nsapu, tué par les forces de sécurité.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Russie, qui a massé plusieurs dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne, s'est efforcée de désamorcer les tensions ce vendredi en réaffirmant qu'elle n'avait aucune intention belliqueuse et qu'elle était prête à discuter des propositions américaines sur la sécurité. Le point avec Michel Joseph.
Si cela dépend de la Russie, alors il n'y aura pas de guerre. Nous ne voulons pas de guerre. Mais nous ne permettrons pas non plus que nos intérêts soient grossièrement piétinés, qu'ils soient ignorés, a déclaré le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov. Les États-Unis et l'OTAN ont dit être prêts à discuter du contrôle des armes et de mesures de confiance, alors qu'ils ont rejeté la demande de Moscou de barrer l'entrée de l'Alliance Atlantique à l'Ukraine. Le chef de la diplomatie russe a déclaré s'attendre à rencontrer à nouveau le secrétaire d'État américain Anthony Blinken au cours des deux prochaines semaines, en ajoutant que les contre-propositions des États-Unis sont meilleures que celles de l'OTAN. La Russie affirme ne pas vouloir la guerre, mais a placé une arme sur la table en massant des troupes aux frontières de l'Ukraine, a déclaré John Sullivan, l'ambassadeur américain en Russie. Le président français Emmanuel Macron s'est entretenu par téléphone vendredi avec Vladimir Poutine.
La Chine a accepté que la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme se rende dans la région de Xinjiang au cours du premier semestre 2022 après les Jeux olympiques de Pékin, une visite que doit garantir un accès significatif et sans entrave, a précisé le porte-parole de Michel Bachelet. Des puissances occidentales et des ONG accusent la Chine d'abus contre les Ouïghours et d'autres communautés musulmanes dans le Xinjiang. Les États-Unis parlent de génocide. Les négociations qui se déroulent à Vienne pour tenter de sauver l'accord sur le nucléaire iranien marquent une pause, a annoncé aujourd'hui la délégation de l'Union européenne, appelant les différentes parties à prendre des décisions politiques. Les participants retournent dans leur capitale pour des consultations et des instructions. En vue d'un retour la semaine prochaine, des décisions politiques s'imposent maintenant, a tweeté l'émissaire européen Enrique Mora. Voilà pour le journal. Vous écoutez VOA. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba s'est adressé hier à la nation. La lutte contre le terrorisme était le principal point de la première sortie du nouvel homme fort de Ouagadougou. Des Burkinabés ont bien accueilli ce discours, mais estiment que le problème sécuritaire doit être vite réglé. Retrouvons Lamine Traoré, notre correspondant dans la capitale burkinabé.
En tenue militaire, béret rouge, le nouvel homme fort est apparu à la télévision nationale pendant une dizaine de minutes. Le lieutenant-colonel s'est voulu rassurant.
Je vous donne la ferme assurance que notre engagement n'a aucunement pour but de rétablir un ordre quelconque, mais s'inspire de l'ensemble des exigences légitimes du peuple burkinabé.
Paul-Henri Sandaogo Damiba sait aussi qu'il est très attendu sur la lutte contre le terrorisme.
Si les priorités sont nombreuses, il est clair que la priorité principale demeure la sécurité. Il nous faut en effet réduire significativement les zones sous influence terroriste et les impacts de l'extrémisme violent en redonnant aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie la volonté de combattre et d'aller encore plus à l'offensive avec des moyens adéquats. Ceci est un préalable indispensable au retour progressif de l'administration publique et à la réinstallation des personnes déplacées internes dans leur village d'origine.
Dans les rues de Ouagadougou, c'est un discours bien accueilli, mais les exigences restent les mêmes. Ramener la sécurité.
C'est déjà intéressé au djihadiste là. En tout cas, bon, pour le départ, on ne peut pas le juger dès maintenant. Mais je pense que son discours a été bien.
Le colonel, tout le monde est content de lui. Tout le monde est satisfait. Mais en fait, il faut qu'il termine. Il a commencé, il faut qu'il termine. Il ne faut pas qu'il va commencer après relâcher. Il faut qu'il sauve le peuple. C'est que nous souhaitons seulement qu'il puisse récupérer le pays. Les gens sont fatigués. Moi, je suis de l'Est. Moi, je connais tout ce qu'il y a. Actuellement, il n'y a pas de route, il n'y a rien. L'insécurité, c'est plein. On ne peut rien faire. Tu peux avoir même un décès, tu ne peux même plus rentrer chez toi. Il ne faut pas qu'il va écouter la CDAO.
On apprécie son geste. C'est bien, mais ils ont pris beaucoup de retard par rapport à la situation actuelle, ce qui se passe. Ils devaient faire ça depuis plus tôt que maintenant. Beaucoup de gens sont morts inutilement. D'autres ont fui, laissé leurs familles. Il devait doubler l'effort pour regarder au niveau de la sécurité, puisque beaucoup ne sont pas saisis. La famille est là. Les gens ne mangent pas à leur faim. On ne peut pas circuler. Nous, on va regarder à ce niveau seulement pour qu'on puisse circuler en paix, librement, comme les Burkinais étaient avant. Nous rassurer, mais ce n'est pas parole là qui nous rassure. On n'a qu'à passer à l'acte.
Dans son discours, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba a appelé la communauté internationale à accompagner le pays afin qu'il puisse sortir le plus rapidement possible de cette crise. Comme première réponse à son appel, la CDAO a suspendu vendredi le Burkina Faso de ses instances. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Dans sa première allocution, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba s'est engagé au retour à une vie constitutionnelle normale lorsque les conditions seront réunies. Il fait de la lutte contre le terrorisme sa priorité. Pour une réaction à ce discours, Yakuba Ouédraogo, adjoint à Ouagadougou, Eddie Komboigo, le président du CDP, le Congrès pour la démocratie et le progrès, l'ancien parti au pouvoir.
Le discours du président, le mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration est venu apaiser la situation parce que la première déclaration, c'était pour dire qu'ils ont pris leurs responsabilités pour prendre le pouvoir. Et cette fois-ci, ils nous disent sur quel point ils vont axer leur intervention. Ils ont certainement besoin d'une période de transition pour travailler, mais il a bien signifié que c'est la situation sécuritaire qui s'est dégradée, qui les a amenés à prendre le pouvoir. Ils espèrent, avec l'appui des populations du peuple burkinabé et de nos partenaires techniques et financiers, nos partenaires bilatéraux ou multilatéraux, arriver à vaincre le terrorisme, tout au moins à faire reculer, à réinsérer les populations dans leur localité. C'est exactement ce que nous souhaitons. C'était un discours où il a été également ferme vis-à-vis de ceux qui viendraient à remettre en cause son pouvoir. C'est tout à fait naturel, ce sont des militaires. Mais bon, son vrai problème aujourd'hui, c'est que la constitution étant suspendue, nous avons de sérieux problèmes avec le Conseil constitutionnel et même toutes les institutions qui ont été créées et sont issues de la Constitution. Fort heureusement, ce n'est qu'une suspension et nous trouverons les voies et moyens pour revenir sur la Constitution, ne serait-ce que l'atteler à une charte.
Il fait de la lutte contre l'insécurité, donc la lutte contre les djihadistes, la priorité absolue de la junte. Vous partagez totalement cela?
C'est ce que nous avions dénoncé depuis plusieurs années, depuis plus de 5 ans. En tant que chef de file de l'opposition, nous avons toujours interpellé le pouvoir de Christian Kabore sur la situation dégradante. Nous étions arrivés à un moment où tout le peuple burkinabé en subissait. Il y a plus de 1 500 000 de déplacés internes qui vivent des situations précaires. Il n'y a pas de développement sans sécurité. Et donc, de ce fait, en tant que patriote aimant mon peuple, je souhaite qu'ils réussissent leur mission.
Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba s'est engagé à un retour à une vie constitutionnelle normale lorsque les conditions seront réunies sans préciser d'agenda. Comment réagissez-vous à cela?
Mais je pense qu'il finira par donner un agenda, l'ordre constitutionnel normal. Il a dit, nous le présentons comme tel, c'est une intention. Mais comme il a dit qu'il constituera l'ensemble des forces vives et qu'à l'issue de cela, il va donner la ligne de conduite, la voie et le chronogramme, nous espérons que ce serait raisonnable, comme il l'a aussi bien dit, et qu'ensemble, en œuvrant avec lui pour que la revienne, on trouvera des délais assez courts. Mais si on l'abandonne seul à se battre contre l'insécurité et qu'il n'arrive pas à arrêter l'insécurité, nous vivrons des situations encore pires.
Eddy Komboigo, président du CDP, Congrès pour la démocratie et le progrès, le parti de l'ancien président Blaise Compaoré.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Le Mali est sous embargo depuis le 9 janvier. La CEDEAO a sanctionné le refus des colonels arrivés au pouvoir par la force en 2020 de rendre la place aux civils dans un proche avenir. Quelles sont les conséquences de ces sanctions sur les populations après presque un mois de leur mise en œuvre? Notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyogo, fait le point.
Depuis l'entrée en vigueur de ces sanctions, des milliers de camions chargés de clinkers participant à la fabrication de ciment sont bloqués en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, deux pays abritant les ports qui desservent le Mali. Mamadou Djiré, lui, travaille à Kita, à plus de 260 km de Bamako. Il est de retour dans la capitale depuis peu pour ses congés. Il profite de ce temps de repos pour reprendre son chantier de construction de sa maison. Mais à sa grande surprise, malgré les assurances données par les autorités, il se trouve que le prix du ciment sur le marché est monté en flèche.
Il y a à peu près 8 jours, le ciment était à 95 000. Et 2 jours après, voilà notre carreleur qui est à côté. Et il est avec quelqu'un, ils sont allés pour aller payer le ciment, ils ont trouvé 120 000. Et 3 jours après, c'était 130 000. Et 7 jours après, ils sont allés revoir, ils ont trouvé que c'était 135 000. Nous, on ne comprend pas. Et alors qu'on a vu les opérateurs économiques avec le président de CECIM à la télé, ils ont précisé qu'ils vont bien maintenir les prix par rapport à tout ce qui sont déjà dans le pays. Pas les nouveaux arrivages, mais tout ce qui existe déjà. Mais comment voulez-vous qu'on fasse l'embargo aujourd'hui et demain, ce qui existe déjà dans le pays, on augmente les prix?
Badou Koba, journaliste malien, affirme lui aussi avoir constaté l'augmentation des prix de certains produits comme le sucre.
J'ai constaté la hausse du prix de certains produits, tels que le sucre, tels que le ciment. Et ça nous inquiète beaucoup parce que, vous savez, c'est un embargo qui a été imposé par la CEDEAO et la communauté internationale, si je peux m'exprimer ainsi. Mais il faut reconnaître que pendant le meeting, il y a des opérateurs économiques qui ont donné leur accord au gouvernement pour dire que qui feront tout pour que les Maliens ne sentent pas cet embargo. Et Toguna Agro Industries a même fourni 500 camions, 500 remontes. Mais malgré tout, on constate une certaine hausse du prix de certains produits. Nous, on ne peut pas comprendre cela parce qu'avant l'embargo, ces produits étaient déjà rentrés.
Pour mettre fin à cette surenchère opérée par certains commerçants, la Direction nationale du commerce et de la concurrence a mis à disposition des numéros verts pour signaler les cas d'augmentation et font aussi des descentes sur le terrain avec des résultats. Sadia Dramé, citoyen, affirme avoir fait le constat.
Moi, je n'ai pas remarqué ça parce que les gens qui se plaignent, c'est peut-être les commerçants qui ont grimpé les prix. Voilà, bon, ces commerçants-là, beaucoup ont été interpellés. Nous, on a constaté ça.
Paradoxe, si les prix augmentent, le syndicat des transporteurs urbains et interurbains affirme qu'il n'y a pas de problème d'acheminement des produits de première nécessité. Amadou Koulibaly, président du syndicat.
Pour le moment, on n'a pas vraiment des plaintes de ce genre, pour le moment. Parce que ceux qui sont en train de transporter là, c'est uniquement les denrées de première nécessité. Et cela passe.
Pour Mamadou Djiré, au-delà des numéros verts, il est important que la Direction nationale du commerce et de la concurrence fasse des descentes dans les quartiers, car il est difficile, selon lui, de dénoncer un boutiquier à qui on doit déjà de l'argent et envers lequel on est très endetté. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, c'est VOA Afrique, 24h sur 24.
La ville de Goma a accueilli la première édition de l'École de la paix. C'est un colloque qui a réuni des jeunes de quatre pays de la région des Grands Lacs, la RDC, le Rwanda, le Burundi et l'Ouganda. Une centaine de jeunes ont créé des liens entre eux, s'informant sur les initiatives menées par les jeunes dans chaque pays pour la recherche de la paix dans la région. Plus de détails avec Zanem Netizaidi.
La région des Grands Lacs est gangrénée depuis plusieurs décennies par des conflits fonciers, des conflits intercommunautaires, des guerres et incursions d'un pays à l'autre, sans parler de multiples groupes armés qui sévissent dans cette vaste région. Des jeunes venus des quatre pays des Grands Lacs sont allés à l'école de la paix qui s'est tenue à Goma. Extrait du discours de l'enseignant d'université Jaribu Muliwavio, montrant aux jeunes qu'ils ont un rôle très important à jouer dans la consolidation et la recherche de la paix. Le colloque est organisé par le projet Great Lakes Youth Network for Dialogue and Peace. Les jeunes Congolais, Rwandais, Tanzaniens et Ougandais ont été émus de participer à l'événement. Karine Lobela est une jeune Congolaise qui est venue à l'École de la paix.
Je pense que c'est ce dont nous avions besoin depuis tout ce temps. Parce que nous sommes dans une région où il y a beaucoup trop de conflits. Et je pense que c'est un bon moyen d'utiliser une école de paix comme réunion de toutes ces personnes, de toutes ces régions. Et je pense que le résultat sera bon.
Marie Niegena est une jeune artiste rwandaise. Pour elle, l'union est la seule arme pour combattre les différences. Elle demande aux autorités d'investir dans la jeunesse pour vivre la paix dans la région.
Comme je dis, l'union fait la force. Et si les présidents de ces quatre pays unis ensemble, penser et utiliser leur potentiel, ils peuvent faire quelque chose et notre région des Grands Lacs peut avoir la paix.
Maria Maganze, la responsable du projet, est satisfaite des résultats de cette première édition. Elle pense que les jeunes pourront apporter des solutions aux problèmes que connaît la région.
Nous avons d'abord visé à cette rencontre physique entre le jeune du Rwanda, de la RDC, de l'Ouganda et de la Tanzanie. C'est une première opportunité de rencontre physique qui est assez importante pour les réseautages que nous voulons qu'ils forment, mais aussi nous voulons que ces jeunes puissent élaborer des actions assez concrètes par rapport aux problèmes que nous allons tous identifier. Et apporter des solutions qui sont communes.
L'école de la paix qui s'est tenue à Goma a duré 5 jours. Cette première édition ne sera pas la dernière, car la deuxième est prévue en Tanzanie et la troisième sera organisée en Ouganda. Zanem Netizaidi, à Goma, pour VOA.
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Dion à ce micro. Un grand merci à toute la rédaction et à notre équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.